C'est qui? C'est qui est tenu à l'impossible au milieu de nous? Jésus. Hein, il a promis l'impossible. Avec lui, rien n'est impossible. Amen. Jésus s'est lié à l'impossible. Il aime l'impossible. Il aime les situations d'impossibilité parce que c'est là où son bras peut manifester sa puissance. Alors merci Seigneur pour nos impossibilités. Seigneur, merci. Nous proclamons ta victoire sur nos impossibilités, Jésus. Nous disons, Seigneur, que tu es plus grand que les impossibilités. Seigneur, que nos impossibilités manifestent notre humanité, mais elles sont là pour révéler ta divinité, pour révéler que tu es Dieu, et que tu es concerné par l'humanité, que tu veux agir dans les vies, que tu veux révéler ta gloire, ta puissance et ton amour, ta sagesse. Alléluia, nous te louons parce que tu es un Dieu proche. Nous proclamons ton nom, Emmanuel, tu es avec nous, tu n'es pas un Dieu lointain. Nous t'adorons, Jésus. Amen. Pendant la louange, j'ai vraiment eu ces versets à cœur de psaume 45. Donc juste avant de commencer, j'aimerais les relire. C'est psaume 45, verset 14. « Toute glorieuse est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Ses vêtements sont faits de broderies d'or. Elle est conduite au roi vêtue de ses habits de toutes les couleurs, des habits magnifiques. Ce sont des habits tissés pour la circonstance. Derrière elle, les vierges, ses amies, sont amenées auprès du toit. On les conduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. » Vous savez à quoi ça fait référence? À quoi font référence ces versets? C'est ce qui se passait dans un mariage. Lors du mariage, il y avait premièrement les fiançailles, donc il y avait un acte qui était passé entre des parents pour marier la fille et son fiancé. Et ensuite, la fille devait rester pendant un an dans la tente, elle était chez ses parents, et elle se préparait pour le mariage. Et alors, elle préparait des habits magnifiques, des vêtements de toutes les couleurs, ça devait être les plus beaux vêtements. Elle était vraiment préparée avec des bains particuliers, etc. Et le mari, par contre, de ce côté, il allait chez son père et préparait une place pour sa future épouse. Et au bout d'un an, il revenait la chercher, d'accord? Et là, ils allaient tous les deux en cortège royal, on peut dire, jusqu'à la nouvelle maison. Et c'est une image que Jésus a beaucoup reprise quand il parlait déjà des vierges. Les vierges, ce sont les amis de l'épouse que l'époux vient chercher et qui nous parle le fait d'être prêt, d'être rempli de l'Esprit. Et aussi le fait quand Jésus a dit « Je vais vous préparer une place. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. » Et dans la maison de mon Père, vous savez que vous avez une demeure qui est en train d'être préparée. Et vous savez où elle est cette demeure? Elle est déjà dans votre cœur. C'est déjà votre vie. C'est votre vie que Dieu est en train de travailler, de préparer et d'en faire une demeure qui appartient à la demeure royale. Et alors il a dit, je vous prépare une place et quand elle sera prête, je viendrai vous chercher et je vous prendrai avec moi. C'est exactement ce qui est décrit là. Le roi vient, il vient chercher son épouse, celle qui s'est préparée, celle qui est vierge. Et dans la joie et la fête, il l'emmène jusqu'à sa maison. Et là on est dans les temps. C'est dans les temps de préparation d'épouse. Hein. Tant que Jésus n'est pas venu, on est dans ces temps de préparation. Mais elle est déjà brodée, nos vêtements sont prêts. Le Seigneur met sur nos vies des vêtements de fête. Et on est dans l'attente du bien-aimé qui vient. Mais pendant qu'il n'est pas là, il a dit « Je ne vous laisse pas seul. Je vous ai donné mon esprit afin qu'il soit avec vous. Et il est comme un autre moi-même auprès de vous. Il vous parle de moi sans arrêt. Il vous fait connaître votre fiancé. Il vous le révèle. Il vous montre qui je suis. Il vous parle de ma part. Toutes les paroles qu'il dit sont mes propres paroles. Les sentiments de son cœur sont mes propres sentiments. Quand vous le côtoyez, vous me côtoyez. Vous apprenez à me connaître. Ce qui fait quand on se rencontrera, on sera hyper proche déjà. Vous m'aurez connu au travers de mon esprit. » Amen. Et ça, c'est comme une introduction à ce que j'avais à cœur de partager. Quand je demandais un texte au Seigneur, et c'est Genèse 38 qui est venu sur mon cœur. Je vous propose de le prendre, mais je ne lirai pas tout. Genèse 38. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères. Donc Judas, c'est un des fils de Jacob. Hein. Il se retira vers un homme d'Adoulam nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte. Et enfanta un fils qu'elle appela Er. On dirait maintenant des faits journalistiques. Elle devint enceinte, enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte, enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shéla. À ce moment-là, Judas était à Kézib quand elle l'enfanta. Verset 6, Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère. Parce qu'en fait, c'était une règle en Israël, ça s'appelle le Lévira. Si un homme mourait, son frère devait prendre sa femme comme épouse afin de donner une descendance à ce frère décédé. C'était tellement important que dans les évangiles même, il y a les pharisiens ou les sadducéens, je ne sais plus, qui viennent vers Jésus et qui lui parlent d'une femme qui a eu 7 maris. Les 7 maris sont morts les uns après les autres sans descendance. Et cette femme est morte à son tour. Donc là, c'est cette loi qu'on parle. Donc ce frère, Onan, il doit prendre la femme de son frère et lui donner une descendance. Suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel qui le fit aussi mourir. C'était tellement grave aux yeux de Dieu de ne pas vouloir donner de descendance que l'Éternel n'a pas pu supporter ce fait et a fait mourir ce frère. Le premier meurt à cause de sa méchanceté. Le deuxième meurt parce qu'il n'a pas voulu donner de descendance. Verset 11. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. Il parlait parce qu'il avait peur que Shéla ne mourût comme ses frères. C'est sûr que si effectivement ils marchaient dans la même voie, le risque était là. Ce n'était pas que Dieu était méchant. C'est qu'ils ont récolté le fruit de leurs œuvres. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Tamar voyait que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était pas donnée pour femme. Alors les versets suivants nous montrent tout le stratagème de Tamar pour s'approcher de Judas, pour qu'ils aillent ensemble, qu'elles deviennent enceintes. Et finalement, Judas s'en aperçoit. Il dit, tu es là. Il ne savait pas ce qui s'était passé. Finalement, c'est lui qui est la cause de ce qu'elles sont enceintes. Et verset 26, il dit, elle est plus juste que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à mon fils Shéla. Et il ne la connut plus. Quand elle fut sur le moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme prit la main et attacha un fil rouge cramoisi en disant, celui-ci est sorti le premier. Mais voilà qu'il retira sa main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite ? Et elle lui donna le nom de Pérez, ce qui veut dire brèche. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et lui en donna le nom de Zérak. Zérak qui veut dire aurore, lumière. Jaillissante. Voilà une drôle de vie. Voilà une triste vie. Tamar, voilà qu'il y a Judas qui s'est approché de Tamar. Et Tamar, elle était comme ces jeunes filles. Ces jeunes filles qui vont se préparer pour un époux. Toute leur vie, elles se sont préparées. Une dose à accumuler. Elle s'est préparée pour tisser des vêtements brodés, pour des vêtements d'or, se préparer pour un mariage. Elle épouse un fils de prince. Judas était déjà prince. Jacob était riche. Il y avait des troupeaux. Ils avaient des biens. C'était une immense famille. Elle était promise un brillant avenir. Elle épouse un fils de prince. Et voilà que le rêve s'achève en cauchemar. Er est méchant. Un homme qui fait du mal. Un homme qui ne craint pas Dieu. On ne sait pas tout ce que ça veut dire. On peut juste s'imaginer tout ce que cela signifiait. Mais c'est à un tel point que Dieu l'a fait mourir. Pourtant, ce n'est pas quelque chose que Dieu fait souvent. Il y a eu d'autres hommes méchants dans la Bible que Dieu n'a pas fait mourir. Ça devait être vraiment particulier. C'est comme cet homme qui meurt, c'est comme un rêve qui s'écroule dans la vie de Tamar. C'est comme une destinée à laquelle elle a été promise et qui s'arrête en un instant. Plus de destinée, plus de fille de prince. Elle disparaît dans l'histoire. On entend Tamar n'existe plus, plus de mari. En plus, elle n'a pas eu d'enfant. Pas de descendance, c'était une honte à l'époque. Elle n'a pas de descendance, elle ne peut pas se perpétuer. Il n'y a plus rien derrière elle, tout s'est arrêté. Elle a la honte d'un homme que Dieu a dû tuer sur sa vie. Tout s'est arrêté dans sa vie. Alors, l'espoir renaît. Er se marie avec elle. Onan. Et voilà qu'Onan marche plus ou moins sur les traces de son frère. On ne parle pas de lui comme un homme méchant. Il ne lui a peut-être pas fait de mal. On ne sait pas trop ce que Er avait fait. Onan, a priori, on ne dit rien là-dessus. Par contre, il ne veut pas donner la descendance. Deuxième rêve qui s'écroule. elle n'a pas de, on ne veut pas lui donner la descendance, on la lui refuse. Elle n'aura pas de destinée. Une vie, le mariage, c'était important à cause de l'amour, mais c'était au moins aussi important à cause du fruit du mariage, à cause du fruit de l'union entre l'homme et la femme. Cette descendance, ces enfants qui venaient, cette postérité qui naissait, elle n'en a pas. Et Dieu fait mourir. La destinée s'arrête. Tout s'écroule à nouveau. Plus d'espoir. Plus rien pour Tamar. Alors finalement, dans l'histoire apparaît un jeune homme. Il est plus jeune. Shéla. Il faut qu'il grandisse. Il est pas encore, il peut pas être marié. Alors on dit à Tamar, écoute, attends. 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 Et Shéla, ça veut dire requête, pétition, prière. C'est comme pour Tamar, un temps de pause. Ça me fait penser même dans les psaumes, il y a un mot qui dit Shéla. Je ne sais pas si c'est relié, mais ça me fait penser pause. Une pause dans la vie de Tamar. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui attend Tamar? On ne sait pas. Est-ce que Shéla va lui être donnée? Est-ce qu'elle va pouvoir avoir sa descendance, accomplir son rêve de mariage et son rêve de postérité? Finalement, elle s'aperçoit quand il est grand qu'il ne lui est pas donné. La promesse s'arrête. On lui avait fait des promesses. Elle vivait sur des promesses. Elle vivait sur l'espérance que la prière s'accomplisse, que les choses dans sa vie enfin commencent à démarrer, qu'elle rentre dans sa destinée. Et voilà, tout se récroule à nouveau. Shéla ne lui est pas donné. Il est donné à une autre. Pas de destinée. Et Tamar aurait pu s'enfoncer dans sa douleur et dans sa souffrance. Mais voilà qu'elle se lève. Voilà qu'elle rentre dans un projet, dans quelque chose. Alors on peut pas dire que le projet est juste, on ne peut pas dire que ce qu'elle a fait est bien, mais elle s'est battue. Elle s'est battue comme d'autres se sont battus avant elle. Son propre grand arabe, on peut dire le père de son beau-père, Jacob s'était battu. Il avait trompé. C'est un homme rusé. C'est un homme qui voulait la bénédiction. C'est un homme qui s'est enrichi. Des fois, on se demandait presque si c'était légal. C'est un homme qui s'est battu contre un ange. Il était jusqu'au bout pour la bénédiction. Et la bénédiction, qu'est-ce que c'était? Vous savez de quoi était faite la bénédiction à ce moment-là? Quelle était la bénédiction qui reposait sur Jacob? C'était la bénédiction qui avait été dite à Abraham. Et Abraham a reçu des promesses qui allaient crescendo. Ça allait croissant. Au début, il a eu une promesse de donner un pays à sa postérité. Puis, Dieu a dit « Je te donnerai le pays pour toujours ». Et puis, je te rendrai ta postérité hyper nombreuse. Et puis, en fait, je vais multiplier à l'infini. Et je te rends père d'une multitude de nations. Ça monte. Je fais une alliance perpétuelle avec ta descendance, par laquelle je serai leur Dieu pour toujours. Et au final, vous servirez de bénédiction pour toutes les nations. Ça a été de plus en plus grand. Dieu a dévoilé la destinée, la bénédiction pour Abraham au fur et à mesure. Jacob voulait cette bénédiction. Et cette bénédiction, c'était avoir une postérité. Et que cette postérité soit bénie de Dieu. Et que cette bénédiction sur la postérité aille vers les nations. Et Tamar, il y avait quelque chose de ce cœur de Jacob qui brûlait en elle. Une passion pour la bénédiction. Une passion pour la postérité. Une passion pour la descendance. Il y a marqué dans Malachie 2,15. Est-ce que vous pouvez le prendre avec moi? J'aimerais que vous le lisiez. Abraham cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Il la cherchait tellement qu'il a fait des choses qu'en d'autres temps il n'aurait jamais faites. Il était marié à une femme qu'il aimait, Sarah. C'était sa princesse. Elle était belle. Elle était magnifique, Sarah. Et Sarah lui a dit, va vers une autre femme. Et pour Abraham, c'était inconcevable de le faire. Mais il l'a fait parce qu'il cherchait la postérité. Parce qu'il savait que quelque part, il y avait une bénédiction qui l'attendait au travers de la postérité. Que pour lui, il ne serait pas béni sans postérité. Qu'il n'y a pas de bénédiction personnelle pour lui-même s'il n'avait pas de postérité. Alors il a fait quelque chose d'insensé à ses propres yeux. Il a pris quelqu'un d'autre et il a eu un enfant. Et la Bible dit, pourquoi a-t-il fait ça, ce gars-là? Pourquoi cet homme de Dieu a fait quelque chose qui était insensé à ses propres yeux, mais parce qu'il se disait, c'est ma seule solution? Parce qu'il cherchait ce qui venait de Dieu. Et Dieu n'a pas rejeté ce qu'il a fait. Dieu ne l'a pas condamné. Parce qu'il a dit, il cherchait ma bénédiction. Et la preuve, c'est que Ismaël, il a dit, je te bénirai. Je ferai de toi une multitude. Je te bénirai de la bénédiction d'Abraham. Il ne l'a pas rejeté. Abraham cherchait la postérité. Jacob s'est battu. Et Tamar a été prête à faire quelque chose d'insensé. Quelque chose qui pouvait la conduire à la mort, à la destruction. Elle savait qu'on aurait pu la lapider comme un rien. Elle a pris tous les risques parce qu'elle voulait la bénédiction. Elle voulait la postérité. Elle voulait la descendance. Amen. Alléluia. Il y a une autre fille dans la Bible qui s'appelle Tamar. Est-ce que vous la connaissez? Vous vous rappelez de l'autre Tamar? 2 Samuel 13. Donc notre première Tamar, elle a tout perdu. Toutes ses destinées se sont envolées. Tous ses rêves, tous ses espoirs se sont envolés. Et il y a une autre Tamar à qui on a tout pris. 2 Samuel 13. C'est la fille de David. C'est la fille de David que le demi-frère a violée. Cette Tamar-là, c'était une fille de roi, d'un des plus grands rois de l'histoire. Elle avait une des plus grandes destinées possibles. Elle avait les plus grands rêves que n'importe qui pourrait quasiment imaginer. Ses vêtements qui l'attendaient devaient être les plus beaux qu'il ait presque jamais été. Ses rêves de princesse étaient de gloire. Ses rêves d'avoir des enfants magnifiques parce qu'elle aurait épousé un prince beau. Ses enfants, ils auraient été magnifiques. Elle savait qu'elle avait une descendance qui l'attendait. Elle nourrissait des rêves incroyables. Et voilà qu'un de ses demi-frères la prend, la viole, et détruit tout. Tous ses rêves, tout s'est écroulé en une matinée. Tout s'est arrêté. Plus de destinée, plus de rêves. Les vêtements au placard. Pas de mari. Qui aurait pu pouvoir la prendre? Plus de descendance, plus d'enfants. Tout a été volé à Tamar. On lui a tout pris. Verset 17. Ce gars-là, après avoir fait ce qu'il a fait, autant il l'avait aimé dans la passion de sa propre chair, autant il l'a haï par la suite. Une fois qu'il avait fini, il l'a haï. Il a conçu de la haine pour elle. Il appela le garçon qui était à son service et dit « Chassez-moi celle-là dehors. » Une fille de roi, sa propre sœur, celle qu'il avait tant aimée, mais juste pour ses propres désirs, chassez-la dehors. Verrouillez la porte derrière elle. Fin de la destinée, fin d'histoire pour Tamar. Tout est arrêté. Elle portait la tunique multicolore des vierges. Cette tunique multicolore des femmes promises à un mariage. C'était le vêtement dont étaient vêtues les filles vierges du roi. Tout était préparé pour elle. Elle attendait plus que le prince charmant. Le domestique d'Amnon la mit dehors et verrouilla la porte. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira la tunique multicolore qu'elle portait. Elle mit la main sur sa tête et elle s'en alla en poussant des cris. Son frère Absalom lui dit, « Ton frère Amnon a-t-il été avec toi ? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » En plus, non seulement on lui a tout pris, mais on ne reconnaît même pas sa souffrance. On ne reconnaît pas sa douleur. C'est une des pires choses. Absalom ne dit rien à Amnon, mais il le prit en haine. Absalom n'a pas montré quelque chose envers Tamar, bien qu'il ait pris de la haine, il n'a rien dit à Tamar. Donc elle n'a même pas été soutenue dans ce moment-là. Peut-être que dans nos vies, à ces moments-là, il y a eu des choses comme ça, il y a eu des destinées qui nous ont été volées. Il y a des promesses que Dieu avait faites sur nos vies. Il y a quelque chose qui s'est passé dans nos vies. Peut-être qu'on a connu des circonstances où il y avait de la méchanceté et que des choses se sont arrêtées. Peut-être qu'on avait des promesses qui nous étaient faites. Elles ne se sont pas accomplies. Des rêves qu'on avait nourris qui n'ont pas pu s'accomplir. Peut-être qu'on nous a même volé tout ce qu'on avait, toute notre destinée. Et tout s'est arrêté comme dans un entonnoir. Il n'y a plus rien derrière. Ça peut arriver. Qu'est-ce qui s'est passé pour la première? Cette Tamar-là, on ne parle plus d'elle. A priori, tout s'est arrêté pour elle. Mais notre autre Tamar de Genèse 38, elle a fait un acte inconsidéré, ok? Mais elle s'est levée, elle a espéré et elle a été voir le Judas et elle a eu une descendance. Vous savez que la descendance, c'est quelque chose que Dieu recherche. Dieu aime. Regardez ce qu'on lit dans Genèse 28. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays. Dieu voit, réfléchit, pense, prévoit, planifie, structure au travers de toi et de ta descendance, qu'elle soit physique ou spirituelle, qu'elle soit au travers de ce que tu peux produire ou des fruits de l'esprit, de la vie de l'esprit au travers de toi. Quoi que ce soit que Dieu veut engendrer au travers de ta vie, tout ce qui sera né de l'esprit en toi, c'est ce que Dieu recherche et qui portera du fruit pour l'éternité. Deutéronome 4, 37, il a aimé tes pères, il a choisi leur postérité après eux. Deutéronome 10, 15, c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est à leur postérité qu'il s'est attaché pour les aimer. C'est vous qui l'a choisi. Dieu aime ta postérité, de tout type qu'elle soit. Dieu aime ce qui est appelé à découler de toi, à venir de toi, à être engendré par toi. Dieu le recherche, Dieu l'attend. Deutéronome 30, 19, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous et le ciel, entre vous et le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Vous connaissez ces versets? Qui c'est qui connaît? J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Est-ce que vous savez qu'il y a une suite? Afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Nous, on a tout raccourci. Dans notre mouvement évangélique, il me semble, je ne veux pas critiquer, mais c'est juste pour qu'on prenne conscience. Nous, c'est choisir la vie afin que tu vives. Tout s'est arrêté là. Tout s'est figé à cet endroit. On n'a pas réfléchi plus loin. On pense que l'histoire de postérité ne concerne qu'Israël. Mais non, Dieu nous parle de notre postérité à nous. Afin que tu vives, toi et ta postérité. Dieu te cherche, toi et ta postérité. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta maison. Ta postérité, Dieu l'aime. Dieu aime tes enfants. Dieu aime les enfants de tes enfants. Il les voit déjà. Dieu aime tes enfants spirituels et les enfants qui naîtront de tes enfants spirituels. Dieu aime les fruits de l'œuvre de l'Esprit dans ta vie. Et il aime ce qui va découler de ces fruits-là. Dieu seul les voit déjà, mais il les voit jusqu'à la fin. Il connaît déjà tout. Tout est déjà devant ses yeux. De la même façon que ta vie est devant ses yeux tout entière depuis l'éternité. Tous les jours de ta vie sont connus de lui. Tous les jours de ta descendance sont connus de lui. Tous les jours de tout ce que tu vas produire et de ce qu'on va produire ta descendance sont connus de lui. Tout est devant ses yeux et il l'aime. Il s'est attaché à toi et à ta descendance, pour te bénir, toi et ta postérité. Il ne conçoit pas la bénédiction pour toi seul. Il ne conçoit que la bénédiction pour toi et ta descendance. Et si tu n'as pas de descendance, je te propose d'en adopter une. Si tu n'as pas de descendance, adopte. Adopte de la façon dont Dieu te montrera. Sois à son écoute. Mais il y a de l'adoption. J'aimerais même dire il y a de l'adoption dans l'air. Il y a une acceptation de descendance, une recherche de descendance. Je commence à partir à la recherche de ma descendance, à regarder, Seigneur, ouvre mes yeux, afin que je voie où se trouve ma descendance. Qu'est-ce que je dois faire pour toucher ma descendance? Parce que je ne serai béni qu'au travers de ma descendance. Et je pense qu'on peut intégrer l'école, l'éducation chrétienne, dans la descendance. Si tu ne sais pas où aller, vois comment aider l'éducation chrétienne dans son ensemble, parce que c'est une porte que Dieu ouvre pour notre bénédiction à tous. Parce que Dieu nous aime, t'aime toi et ta descendance. Vous savez comment on produit une descendance? Je crois que ce n'est pas tellement un secret. Il faut deux personnes pour une descendance. Une épouse et un époux, ou un homme et une femme. Comment est produite notre descendance? Qui est-ce qui connaît Ésaïe 53? Ésaïe 53 parle de la mort de notre Seigneur, ses souffrances. Et vous connaissez ces versets? Le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après, avoir livré sa vie en sacrifice de culpabilité, vous savez ce qu'il fera ? Qu'est-ce qu'il fera ? Il verra une postérité. Amen ! C'est le moment de crier. Si vous avez envie de crier, c'est maintenant. Il verra une postérité. Jésus sur la croix n'avait qu'une vision, sa postérité, sa descendance. Il était comme son père Abraham. Il cherchait la postérité. Et cette postérité, il l'a cherchée. Il s'est battu. Il a été jusqu'au bout et il a été jusqu'à la mort pour avoir sa postérité. Il voulait la postérité. Il était comme son père Abraham. Et quand Abraham s'est battu, quand Jacob s'est battu, leur fils leur disait, « Mes pères, je suis avec vous de tout mon cœur. Je vous admire, je vous aime, je suis fier de vous parce que vous avez le même cœur que moi de chercher votre postérité. Vous ne vous êtes pas contenté des richesses. Vous n'êtes pas contenté de vos troupeaux. Vous n'êtes pas contenté de ma bénédiction dans vos vies. Vous avez voulu, vous êtes battu jusqu'à la folie pour la descendance. » Qu'est-ce qui vient après Ésaïe 53 ? Ésaïe 54. Amen. Triomphe stérile, toi qui n'as pas enfanté. Éclate en cri de triomphe et jubile, toi qui n'as pas connu les douleurs. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les toiles de ta demeure. Ne les ménage pas, allonge tes cordages et affermis tes piquets. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta descendance prendra possession des nations et peuplera des villes désertes. Sois sans crainte, car tu ne seras pas honteuse. Tamar, ne sois pas confuse, Tamar, tu ne seras plus déshonorée. Tu oublieras la honte de ta jeunesse, Tamar. Tu ne te souviendras plus, Tamar, du déshonneur de ton veuvage. Amen. Car celui qui t'a faite est ton époux. Celui qui t'a faite est ton époux. Celui qui t'a faite est ton époux. Tamar, tu as tout perdu. Ta destinée t'a été volée. On t'a pris tout ce que tu espérais, on t'a pris tes rêves. Les promesses n'ont pas été accomplies. Tu es arrivé au bout, au fond du gouffre. Tu penses qu'il n'y a plus rien. Tu penses qu'il n'y a plus d'espoir. Ton Créateur est ton époux. Et ton époux a donné sa vie pour avoir une postérité, une descendance. Il en est mort, il a pleuré, il a souffert, il a crié, il a été abandonné. Mais il ne verra pas de postérité sans toi. Parce qu'un époux a besoin d'une épouse. Et tu es devenue l'épouse de Christ afin de donner à Christ la postérité qu'il s'est battu pour avoir. Toi, jeune, moins jeune, couple, pas couple, tu fais partie de l'épouse. Tu es cette épouse. Tu es celui que Christ a voulu. Tu es d'abord sa descendance. Tu es d'abord celui pour lequel il s'est battu, celui qu'il a racheté, celui, tu es devenu son enfant. Tu es la postérité qu'il a recherchée. Tu es celui qu'il voulait à tout prix. Et tu es aussi devenu après cela l'épouse. Parce que tu vas perpétuer, tu vas répéter, tu vas reproduire, tu vas accomplir ce que tes pères ont fait, tes pères et mères. Tu vas engendrer. Tu vas engendrer le fruit de l'Esprit dans ta vie. Que ce soit des enfants, que ce soit de l'adoption spirituelle, quoi que ce soit que l'Esprit te pousse à faire, quand tu vas te mettre à part, quand tu vas écouter, il va te parler et des choses vont naître. Il y a des engendrements qui sont en train de naître. On parlait de projets ce matin. On parlait de nouveaux plans. Le Seigneur est en train de vouloir engendrer des choses nouvelles dans son épouse. Il est en train de dire à son épouse, viens. Et l'épouse, et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et les deux se rapprochent. Il y a une intimité. Psaume 45, je voudrais revenir au psaume 45. Je vous ai lu les magnifiques versets, mais je n'ai pas lu ce qu'il y a ni avant ni après. Écoute ma fille, vois, prête l'oreille. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Il est fou d'amour parce que tu es trop belle. Il t'admire. Et ses désirs se portent sur toi. Parce qu'il est ton Seigneur, apporte-lui tes hommages. Amen. Ça, c'était juste avant le verset qu'on a lu tout à l'heure. Et juste après, tes fils prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans le pays. Amen. Est-ce que ça vous paraît beau comme projet? Est-ce que vous voulez faire partie de ce projet? Vous êtes fille de roi. homme ou femme, garçon ou fille, jeune ou vieux, tu es fille de roi. Et le Seigneur porte ses désirs sur ta beauté. Il te trouve magnifique. Il est amoureux de toi. Il est passionnément amoureux de toi. Il veut prendre soin de toi comme un époux. Comme un époux prend soin de son épouse, il veut prendre soin de toi. Il veut te nourrir. Il veut te faire du bien. Il veut t'entourer de son affection, de son amour. Ésaïe 54. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Et mon alliance de paix ne tremblera pas. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Amen. Ésaïe 62. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Comme la fiancée fait la joie de ton fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Nous sommes appelés à faire la joie de notre Dieu. Il s'approche de nous. Il y a une intimité qui grandit entre le Fils de Dieu et son épouse, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Il y a un amour l'un pour l'autre. L'amour de Jésus, tous les jours, grandit. Tous les jours, il veut te le révéler davantage. Tous les jours, il veut te montrer à quel point il t'aime. Et en même temps, il veut engendrer au travers de toi des choses nouvelles, des choses par l'Esprit. Il veut que, comme Marie, l'Esprit te couvre de son ombre et que tu engendres. Que tu engendres des choses nouvelles. Amen. C'est l'heure. C'est l'heure de l'engendrement. C'est l'heure de la passion avec Jésus. Et c'est l'heure de l'engendrement. Tamar, vous savez ce qui s'est passé? Elle a eu deux fils. Le premier s'appelait Pérets. Il a ouvert la brèche. Il y a une brèche qui vient. Il y a une brèche dans tous ceux qui sont... La destinée s'est pas accomplie. Les promesses sont pas venues. On a tout pris. La brèche arrive. La brèche est là. Et quand la brèche sera faite, Zérak va sortir. Zérak, l'aurore, lumière jaillissante. C'est l'heure d'une lumière jaillissante dans ta vie. Alléluia. C'est l'heure de la lumière jaillissante dans nos vies. Et vous savez que Tamar, qui était vouée à partir dans l'histoire, dans l'oubli, qu'on ne parle plus d'elle comme l'autre Tamar, elle est devenue un synonyme de bénédiction. Si on prend Ruth 4, 11, tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous sommes témoins, vous connaissez cette histoire, Boaz s'est marié avec Ruth. Et alors il a demandé le témoignage de tous ceux des anciens de la ville. Et les anciens disent, nous sommes témoins de ton mariage et des promesses vous faites. Que l'Éternel rende la femme qui est dans ta maison semblable à Rachel et à Léa. Manifeste dans ta force dans Ephrata. Fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Pérets, qui fut engendrée à Juda par Tamar. Et vous savez où est-ce que Tamar apparaît encore? Dans les évangiles. C'est la maman, puisque c'est la maman, c'est une des aïeules de Boaz, une des aïeules de David et une des aïeules de Jésus. Elle a une sainte postérité. Celle qui n'avait pas de postérité a eu la plus belle postérité qui soit. Le Seigneur veut te rendre ta destinée. Il veut te multiplier et il veut faire de ton nom une bénédiction. Amen. Le Seigneur veut te donner une destinée. Il veut te multiplier et il veut faire de ton nom une bénédiction. Alléluia, Jésus. Je proposerais, s'il y a des personnes qui aimeraient simplement qu'on prie pour elles, qui vivent des choses de ce genre, qui se reconnaissent dans cette situation et qui aimeraient qu'on prie, qui aimeraient voir la brèche dans leur vie et que la lumière jaillisse et qui aimeraient que le Seigneur leur rende leur destinée si elle était volée, si elle était abîmée, si elle était détournée. Si on a refusé la destinée, si on n'a pas accompli les promesses, même si elles ont l'impression que Dieu n'a pas tenu ses promesses, qu'elles ont prié mais que les choses ne se sont pas accomplies, qu'il y a une pause dans leur vie et qu'on a l'impression que rien redémarre. C'est le temps du nouveau stratagème. C'est le temps de trouver comment la clé. Et la clé, c'est Jésus, l'époux qui s'approche de toi, que tu rentres dans son intimité et que tu vives de nouvelles choses avec lui. Alléluia. S'il y a des personnes qui auraient désiré, on peut simplement prier avec elles. Vous pouvez lever la main ou vous approcher. Seigneur, nous voulons rendre gloire à ton nom. Je te loue parce que tu es le magnifique époux. Je te loue parce que tu te prépares pour notre rencontre. Tu es en train de te préparer, Jésus. Tu nous prépares une place et tu te prépares. Tu es dans l'expectative, tu es dans l'attente. Tu te réjouis de ce moment où nous serons réunis complètement avec toi. Mais dès maintenant, tu vis avec nous, Seigneur, comme des fiancés. Parce que par ton esprit, tu es avec nous. Par ton esprit, tu es en nous. Par ton esprit, tu es à côté de nous. Et tu vis ces fiançailles pas comme une frustration, mais comme un temps de grâce, comme un temps de gloire, comme un temps de beauté, comme un temps de joie, comme un temps de félicité. Parce que tu es avec nous, parce que l'objet de ton amour, c'est nous, et que nous sommes attachés à toi, accrochés à toi. Et Seigneur, je te loue, parce que déjà maintenant, tu désires rencontrer ta postérité, tu désires engendrer ta nouvelle descendance au travers de chacune de nos vies. Seigneur, touche nos vies, rends-nous enceints, nous voulons nous approcher de toi, nous voulons te rencontrer tout à nouveau, rencontrer ton amour, être touché par la passion de ton cœur, être uni à toi. Et ne plus te lâcher. Seigneur, devenir enceint de toi. Que les œuvres de l'Esprit, que les projets de l'Esprit, que les plans, tout ce que tu as planifié d'avance pour nos vies, que les œuvres préparées d'avance commencent à jaillir de nos entrailles, qu'elles commencent à être semées en nous et porter leurs fruits dans nos vies par l'Esprit. Au nom de Jésus, nous voulons chercher notre descendance. Nous voulons prendre soin de nos enfants aussi, sous ce que tu nous donnes, tout ce que tu mets autour de nous. Seigneur, nous voulons en prendre soin. Comme étant un fruit que tu aimes, que tu cherches, que tu veux honorer, que tu veux élever. Tu veux les établir princes dans le pays. Alléluia, Seigneur. Et au travers d'eux, nos petits-enfants, etc. Physiquement ou spirituellement. Jésus, nous rendons gloire à ton Saint-Nom et nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen.